Bonsoir à tous. Lors de la dernière étude, nous avons parlé de la bénédiction qui tombe sur nous quand on reçoit des enfants de Dieu, mais aussi la bénédiction qu'on doit donner. Ce soir, c'est un tout autre thème. Je vais parler de la famine et au cours de la famine, avoir du discernement, mais aussi savoir donner, dans la mesure du possible, bien sûr. Alors, on va commencer à lire dans 2 Rois, chapitre 4, les versets 38 à 44. Alors, Élisée revint à Gilgal. Or, il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son jeune serviteur, « Prépare la grande marmite et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans la campagne pour ramasser des légumes. Il trouva une vigne sauvage et il y ramassa des coloquintes sauvages, pleins sans vêtements. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite du potage, car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans la marmite, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans la marmite et dit, « Serre ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apportait du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son assistant répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et ils en eurent du reste, selon la parole de l'Éternel. Voilà. C'est un petit passage, mais qui est plein de richesses. Alors, ce passage commence par « Il y avait une famine dans le pays ». La famine est un fléau que la Bible mentionne souvent comme pouvant être un jugement, une conséquence de la désobéissance du peuple de Dieu. Sous le roi Achab, Élie avait annoncé un temps de sécheresse comme étant un jugement divin sur la nation pécheresse d'Israël. À présent, il en est de même pour cette famine. C'était également un jugement dû à la décadence spirituelle d'Israël. C'est là une des diverses manières par lesquelles Dieu parle pour attirer les hommes à lui. Dans sa parole, Dieu avait annoncé dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, verset 15, qu'il jugerait son peuple s'il n'obéissait pas à ses commandements. Effectivement, au verset 15, il est écrit, « Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Ces malédictions sont écrites dans les versets 16 à 68 du chapitre 4. Et parmi ces malédictions qui sont énumérées au verset 16 à 68, comme je vous ai dit, il y a la famine. Car il est dit au verset 24, « L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. » Et au verset 48, il est écrit, « Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. » Ne pensons pas que ces paroles n'étaient valables que pour l'Israël d'autrefois. Ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui encore, Dieu parle de diverses manières. Et même si le ciel n'est pas d'airain au-dessus de nos têtes et que nous avons suffisamment de pluie en ce qui nous concerne, que penser, par exemple, de l'atmosphère qui se pollue un peu plus jour après jour? Que penser des retombées de particules dues à la radioactivité? N'est-ce pas là une calamité? Et cela ne va-t-il pas de pair avec la pollution morale de notre société? De même, il semble que dans nos pays dits développés, des gens essayent d'amasser de plus en plus de biens. Nous devons réaliser qu'en fait, beaucoup amassent dans des sacs percés. Et là, je vais faire une parenthèse. Effectivement, dans notre société, il y a beaucoup de gens qui amassent, qui ont des biens dont ils ne savent pas quoi faire. Et ils oublient ce qu'il y a marqué dans la Bible, notamment par les chrétiens, où il est marqué que Dieu prend soin des siens et qu'il apporte chaque jour ce que nous avons besoin. Et il ne faut pas oublier l'homme qui a amassé dans ses greniers, qui voulait vivre une vie tranquille. C'était une sécurité pour lui, mais il est mort le lendemain. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Ensuite, nos pays dits prospères sont tous endettés et les dettes nationales se chiffrent par milliards d'euros. C'est de cette situation que le Seigneur parle au moyen du prophète Haggai au chapitre 1, au verset 5 et 6 de son livre. Il est marqué « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. » Voilà, ça c'est pour ceux qui amassent et qui ne sont jamais rassasiés. Voilà. Et par contre, nous voyons autour de nous un grand mécontentement, car on réclame au peuple de l'argent et il est sollicité de tous côtés. Car il y a un manque, il y a une pénurie. Voilà l'état de notre société. Il y en a qui amassent et il y en a d'autres à qui on demande toujours plus et qui n'ont pas les moyens souvent de donner ce qu'on leur demande. Mais pour ceux qui craignent Dieu, il doit en être autrement. Car plus les difficultés grandissent, plus nous pouvons expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. C'est ce qui était marqué dans la première louange que nous avons chantée. Le psaume 127, verset 2, nous dit « En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Il nous a dit au psaume 34, verset 10, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Du temps d'Élisée, il y eut donc une famine dans le pays. En période de pénurie, de famine et de misère, l'homme est des fois conduit à effectuer des actes qu'il ne ferait pas en temps ordinaire parce qu'il est soumis à toutes sortes de tentations. Lorsqu'Élisée a demandé à son serviteur de mettre la grande marmite sur le feu afin de préparer un potage pour les fils des prophètes qui étaient assis devant lui, au nombre d'environ une centaine, ils étaient tous dans l'attente de recevoir de la nourriture. Nous avons vu qu'Élisée est un type de Christ, celui qui nourrit. Mais notre récit nous dit que l'un des fils des prophètes s'est dit « Il faut que je fasse quelque chose, car il n'y a pas assez à manger pour tout le monde. Aussi, j'irai voir dans les champs ce que je pourrais ramasser pour nourrir toute l'équipe. » C'est ainsi qu'il est sorti dans les champs et qu'il s'est mis à cueillir des herbes et des plantes sauvages qu'il a ensuite coupées en morceaux et qu'il a mis dans la marmite où était le potage, afin d'en augmenter la quantité. En période de famine, les gens ne font plus tellement attention et ils vont manger n'importe quoi, même des aliments avariés qu'en temps ordinaire, ils ne donneraient même pas à leurs chiens. En période de famine, les poubelles sont fouillées, vidées et les gens se nourrissent de déchets, de détritus, d'ordures malsaines qui apportent toutes sortes de maladies et finalement la mort. S'il existe une famine alimentaire, un manque de nourriture pour le corps, s'il existe des situations économiques catastrophiques qui poussent les gens à la corruption, à la tromperie, au vol, à la violence et même au meurtre, sachez qu'il existe aussi des situations de famine spirituelle. Celle-ci est due à l'homme qui se détourne de Dieu. Il ne veut plus se tenir dans sa présence pour écouter sa parole. Et pour nourrir son âme, il se met à courir partout dans les champs, sans discernement, en ramassant et en cueillant tout ce qu'il trouve sur son chemin. Des herbes sauvages, des plantes vénéneuses qui apporteront toutes sortes de maladies et finalement la mort. C'est une image, hein, je pense que vous avez compris, par rapport à la famine spirituelle. Et cela est dû à Satan, l'ennemi de nos âmes, qui est très rusé pour faire miroiter devant nos yeux tout ce que Dieu nous interdit de toucher. Quand Dieu avait dit à nos premiers parents, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras », Satan est vite venu et a dit, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissant le bien et le mal. » En d'autres termes, vous aurez beaucoup plus dans la marmite. La prolifération de fausses doctrines démoniaques et d'enseignements pernicieux après lesquels les gens courent pour satisfaire leurs besoins spirituels est la preuve que nous vivons un temps de famine spirituelle. Les gens prennent n'importe quoi pour essayer de satisfaire leurs besoins spirituels. Aussi, faisons attention que dans notre marmite, nous ne mettions point des plantes empoisonnées qui risqueraient de souiller tout le potage. La Bible nous met en garde en disant « Attention, que personne ne vous trompe par des discours séduisants, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » C'est Colossiens chapitre 2, versets 4 et 8. Frères et sœurs, faisons attention à ce qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son plein gré, à son gré, le prix de la course. Le prix de la course d'humilité et par un culte... Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher à Christ, nous dit Colossiens, chapitre 2, versets 18, 19, petit a. Tout cela peut faire allusion à toutes sortes de mauvaises herbes qui pourraient être ajoutées à la sainte parole de Christ. L'apôtre Paul, en écrivant à l'église de Corinthe, les a mis aussi en garde, en disant dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, verset 4, « Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Et plus loin, il écrit, « Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » C'est 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 et 14. Frères et sœurs, Nous avons absolument rien à ajouter à la révélation de la parole de Dieu, aux 66 livres que forme la Bible. Elle est entièrement inspirée et elle est pleinement suffisante pour notre salut, notre croissance, et pleinement suffisante pour notre nourriture spirituelle journalière. Si nous n'avons rien à ajouter à la parole de Dieu, nous n'avons pas non plus à retrancher ou à diluer la parole de Dieu. Dieu avait fait connaître cela à son peuple sous l'ancienne alliance quand il déclara « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les ai prescrits. » C'est Deutéronome chapitre 4, verset 2. L'apôtre Jean mentionnera même ceci en Apocalypse, au chapitre 22, versets 18 et 19. Il dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Oui, n'ajoutons rien au potage de la parole de Dieu et n'en retranchons rien. Restons attachés à la saine parole de Dieu. Et lorsque nous goûtons au potage, soit par un enseignement, un message oral ou écrit, que le Seigneur puisse nous aider à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, afin de ne pas tout avaler, mais de faire comme les Juifs de Bérée, qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est Actes, chapitre 17, verset 11, et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 20 à 22. Pour en revenir à notre récit, il est dit qu'en goûtant au potage, tous ces hommes se sont écriés « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Et j'ajouterai, ils purent remercier Dieu pour le discernement, car ils seraient certainement tous tombés malades ou même morts s'ils s'étaient nourris avec ce potage. C'est alors qu'Élisée a demandé que l'on jette de la farine dans la marmite, un antidote contre le poison. Et le miracle a eu lieu. Et c'est ainsi qu'il n'y eut plus rien de mauvais dans la marmite. Le potage était devenu excellent. C'était une action de la grâce divine. Qui peut nous laver, nous purifier, nous libérer de toutes les mauvaises influences, de ces mauvaises herbes dans le potage, si ce n'est Jésus-Christ, par sa parole précieuse et son œuvre expiatoire à la croix du calvaire. Oui, le sang de Christ nous lave et nous purifie de tout péché et de tout poison qui aurait pénétré dans nos cœurs et nos pensées. C'est pourquoi restons attachés au Seigneur et à sa parole, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Éphésiens, chapitre 4, versets 14 et 15. Ainsi, en temps de famine, demandons au Seigneur qu'il nous aide à faire preuve de discernement afin de ne pas manger n'importe quoi. Un deuxième point que j'aimerais souligner dans ce récit, c'est qu'en période de famine, nous devons aussi apprendre à partager et à donner. Nous avons lu que durant cette période, un homme arriva de Baal Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Sous l'ancienne alliance, il y avait des ordonnances très précises concernant ce qui appartenait de droit à l'Éternel. Il y avait trois choses qui lui appartenaient. Les premiers-nés, Il est dit dans Exode, chapitre 13, verset 2, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. » Deuxièmement, il était demandé au peuple de donner à l'Éternel les premiers fruits de la terre, les prémices, selon Exode 23, chapitre 19, où il est marqué « Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. » Troisièmement, les Israélites devaient également offrir à l'Éternel la dîme, c'est-à-dire la dixième partie de leur revenu ou du butin acquis. Ces offrandes faites à l'Éternel exprimaient leur reconnaissance et leur confiance en Dieu. D'ailleurs, de nombreuses promesses de bénédiction étaient liées à ces offrandes faites à l'Éternel. Nous trouvons de nombreux passages dans l'Ancien Testament qui nous parlent de l'importance d'offrir des offrandes à Dieu. Parmi ceux-ci, il y a, en Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Et en Malachie, chapitre 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Le principe spirituel de la multiplication et de bénédiction en se donnant au Seigneur et en donnant est toujours valable aujourd'hui. Comme le Seigneur Jésus le mentionne dans Luc, chapitre 6, verset 38, « Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et Jésus dira encore, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » L'homme de notre histoire, en donnant à Élisée du pain des prémices, a pu participer à un miracle de multiplication, car une centaine d'hommes ont été nourris ainsi que lui-même. Il n'a manqué de rien. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on apprend à mettre Dieu en premier dans notre vie et à lui donner ce qui lui revient de droit. Dans le Nouveau Testament, un petit garçon avait aussi expérimenté ce miracle de multiplication lorsqu'il remit au Seigneur 5 pains et 2 poissons, son pique-nique. 5 000 hommes ont été nourris, sans compter les femmes et les enfants, et il est encore resté 12 paniers pleins de nourriture. Si aujourd'hui, le chrétien n'est plus sous la loi rigide de l'obligation, il est par contre sous la grâce. La loi de l'amour qui se donne et qui donne et qui se sacrifie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, est-il écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. Fils qui a donné sa vie, nous dit 1 Jean chapitre 3, verset 16. Et selon un Fils qui a donné sa vie pour nous. Et selon l'Évangile, je dirais que ce n'est pas seulement une partie de nos biens et revenus qui appartiennent à l'Éternel, mais la totalité, car nous ne sommes que les gérants de ce que Dieu nous confie. Aussi, donner la dîme, qui est d'ailleurs un principe biblique qui se pratiquait déjà avant la loi de Moïse, puisqu'Abraham l'avait offert à Melchizédek, donner la dîme devrait être un minimum de nos offrandes faites au Seigneur. En fait, la dîme devrait être le premier pas dans notre marche et notre foi chrétienne. Et c'est alors que nous pourrons expérimenter la puissance divine de multiplication. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et que nous lui sommes fidèles, sa parole s'accomplit toujours. comme nous le lisons dans Proverbes, chapitre 11, versets 24 et 25, « Tel qui donne libéralement devient riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Apprenons donc à donner à Dieu de tout notre cœur, à se donner nous-mêmes, à donner nos vies tout entières, selon qu'il est écrit en Romains, chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Nous devons également offrir à Dieu de tout notre cœur notre adoration, nos louanges, nos chants, nos prières, nos dons. Pas du bout des lèvres, pas à contre-cœur, mais de tout notre cœur, comme il est dit en Éphésiens, chapitre 5, verset 19, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Oui, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il est même écrit que nous devons offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, et pas seulement en pensée intérieurement, mais des lèvres afin de confesser son nom. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Savez-vous qu'en donnant à Dieu, nous recevons en retour de Dieu, de la même façon et à la même mesure. C'est Jésus qui l'a dit, « On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Alors, n'ayons pas peur de servir l'Éternel de tout notre cœur et de toute notre force. C'est d'ailleurs de cette manière que les gens du monde servent leurs idoles, qui sont le sport, la musique, la danse, etc. C'est pourquoi, sachant montrer à Dieu notre reconnaissance, Paul a dit, « Nous sommes fous à cause de Christ. Puissions-nous l'être à notre tour. » Pour terminer, voici les deux leçons contenues dans ce passage qu'il nous faut retenir. En période de famine spirituelle, qui est la situation actuelle en France, mais aussi en Europe, ne courons pas dans les champs pour chercher n'importe quoi, mais sachons discerner et surtout apprenons à nous tenir aux pieds de notre Maître, le Seigneur Jésus, comme Marie l'a fait. Sa parole est toute suffisante pour nourrir notre âme et pour notre croissance spirituelle. Deuxièmement, même en période de famine, de pénurie, de crise économique, n'ayons pas peur de partager, de donner si nous le pouvons, et de nous donner entièrement au Seigneur. Car n'oublions pas que c'est grâce à l'offrande de l'homme, de notre récit, que la multiplication a pu avoir lieu et que d'autres ont été nourris. Dieu veut que nous soyons en bénédiction pour beaucoup. Aussi, apprenons à donner, premièrement, à nous donner entièrement à Dieu, puis à donner aux autres. Amen. Voilà les richesses que renfermait ce petit texte de six versets.